Très bien, donc on va reprendre pour cette deuxième partie de matinée. Donc on va reprendre avec Christine Détré, qui est maître de conférence ici à l'ENS en sociologie. C'est une ancienne élève de l'ENSU, mais une agrégée de lettres classiques, donc on est beaucoup dans la littérature aujourd'hui. Elle a soutenu en 1998 une thèse de doctorat en sociologie consacrée aux pratiques de lecture des adolescents, et elle a soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2012. Elle a notamment publié pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en 2012, avec Olivier Vanet, Les mangas d'eau, lire des mangas à l'adolescence. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler de la réception genrée des mangas à l'adolescence.
Merci. Alors déjà, je suis très contente d'être là. Je vous remercie de m'avoir invitée. Alors effectivement, moi, mon discours, il ne va pas être littéraire, donc ça ne va pas être du tout une analyse des images ou de la représentation des garçons ou des filles dans les mangas. Moi, c'est un discours donc, qui se situe du côté de la sociologie, et notamment de la sociologie de la lecture et sociologie de la réception. Donc en fait, ça part du constat qui a été fait depuis une bonne cinquantaine d'années, déjà par les cultural studies en Angleterre et après par les études de sociologie de la réception en France, qu'en fait, un corpus ne dit rien de ce que vont en faire les lecteurs. Et notamment qu'un corpus, aussi stéréotypé soit-il, ne dit absolument rien des appropriations que vont en faire les lecteurs et les lectrices. Et donc c'est vraiment rompre avec une image qui serait, on a un discours et le lecteur c'est juste une éponge qui absorbe, alors ou des films ou des livres, etc. Enfin, discours qui alimente d'ailleurs plein de panique morale. Hein. Vous voyez quand il y a des discours sur un ado a tué son copain parce qu'il avait vu tel film, ou les enfants qui ne font que regarder du porno, ça va devenir tous des serial killers ou des violeurs en série. C'est réfléchir en fait sur ce passage qui est absolument pas automatique en fait entre ce qu'on reçoit et ce qu'on en fait. Donc en fait, cette enquête, c'est une enquête qui avait été commandée par la BPI, le centre de la bibliothèque publique d'information, qui avait commandé au début une enquête générale sur les lecteurs de bandes dessinées. Et Olivier Vanet, avec qui on a fait le travail, et puis bon, j'ai réexpliqué aussi les conditions de ce travail, faisait sa thèse sur les mangas. Donc on avait proposé en fait de travailler vraiment sur la réception par les adolescents des mangas. Et ça fait donc Lucie aussi avait participé à cette enquête-là, puisqu'on l'avait inscrite dans le cadre d'un séminaire de recherche que je fais à l'ENS, qui est sur apprendre la sociologie en fait par l'enquête, en faisant vraiment des enquêtes. Donc ça, ce que je vous présente là, c'est vraiment un travail finalement qui est un travail collectif. Donc on a interrogé une soixantaine d'adolescents, aussi bien des collégiens que des lycéens, qui ont été interrogés donc sur leur pratique de lecture des mangas, leur parcours de lecteur, leurs préférences, les rejets, les investissements matériels et symboliques qu'ils y placent. Alors pourquoi les mangas? Parce que c'était juste, en tout cas quand on avait commencé l'enquête, c'est une production qui connaît beaucoup de succès. Alors par exemple, un petit chiffre, entre 2000 et 2010, la proportion de mangas dans les publications de nouveautés en bande dessinée était passée de 20% à 40%. Alors, sachant que ça se tassait un petit peu à partir de 2008, mais ça reste une production qui a beaucoup de succès, notamment auprès des enfants et des adolescents. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que la lecture des mangas, pour les ados qu'on a interrogés, mais là, je ne vais pas rentrer dedans, c'est toute une autre partie du livre qu'on a fait, ça témoigne vraiment d'une appartenance générationnelle très forte. C'est-à-dire qu'on lit des mangas au collège parce que c'est une lecture entre pairs, vous voyez, P-A-I-R-S. Et c'est aussi une lecture qui s'insère dans la sociabilité amicale et dans tout un système de réseaux, d'échanges et de discussions. Ce qui était intéressant aussi pour nous, notamment dans une optique de genre, c'est que c'est un univers lectoral qui est extrêmement segmenté. Donc c'est segmenté en fonction de l'âge des lecteurs supposés, mais aussi c'est segmenté en fonction du genre, c'est-à-dire est-ce que ça s'adresse à une fille ? Ça sera un shoujo, ou est-ce que ça s'adresse à un garçon, ça sera un shonen. Avec une définition très, on pourrait dire caricaturale, qui va être le shoujo, et vous allez voir comment les enfants eux-mêmes, les adolescents, l'interprètent. Les shoujo, c'est des histoires d'amour, avec des triangles amoureux, etc. Les shonen, c'est des histoires d'aventure. C'est comme ça que les ados, en tout cas, le présentent. Et donc, ce qui nous intéressait, en fait, dans le séminaire, et puis avec Olivier, qu'on a fait le livre, Donc c'était pas, je l'ai dit, de faire une étude sémiotique des représentations de la masculinité et, ou de la féminité, mais c'était d'envisager comment les adolescents et adolescentes composent avec cette offre éditorialement très, très genrée. Comment ils s'en emparent, comment ils aménagent, comment ils utilisent, comment peut s'instaurer la relation entre un genre sexué et un genre éditorial. Et aussi, et ça, ça me semble extrêmement important qu'on parle de genre, comment ça va se décliner selon l'âge et l'origine sociale de l'adolescent. C'est-à-dire que vous allez voir, ce n'est pas des garçons et des filles, c'est des garçons de milieu ouvrier ou des garçons de milieu favorisé, c'est des garçons qui ont 11 ans ou des garçons qui ont 16 ans, et ce n'est pas la même chose. Et parfois, juste à dire garçon-fille, vous allez voir, on raterait beaucoup de choses. Et donc, ce qui me semble important de dire en fin d'introduction, c'est que justement, il faut penser cette relation-là, en tout cas en sociologie de la réception, en termes dialectiques, c'est-à-dire que selon leurs caractéristiques sociales, les garçons et les filles de tel ou tel milieu, de tel ou tel âge, vont aller vers telle ou telle série, tel ou tel titre, mais inversement, cette série et la façon de la lire vont contribuer à en faire des garçons et des filles de tel ou tel milieu ou de tel ou tel âge. Donc, vous voyez, il y a comme ça une une relation dialectique. Alors, en fait, je vais commencer par les garçons, et puis après, je passerai aux filles. Alors, en fait, pour les garçons, vous allez voir, ça va se décliner en deux temps. Donc, le premier temps, c'est ce que j'ai appelé les garçons et le mode tabassage. Alors, mode tabassage, c'est l'expression qui revient tout le temps dans les entretiens. Et c'est un point qui est, vous allez voir, qui va s'opposer avec les filles. C'est-à-dire que pour tous les garçons, tous les jeunes ados qu'on a interrogés, ils ont tous commencé la lecture de manga par des shonen. Alors, les shonen, qu'est-ce qu'ils nous disent des shonen? C'est un schéma narratif qui se rapproche de certains jeux vidéo d'action et d'aventure. Donc, une succession de combats par rapport à des chefs de plus en plus puissants, avec une accumulation de pouvoirs spéciaux et de nouvelles techniques. Et donc, en gros, ils ont tous lu Naruto et Bleach, et ils ont joué aux jeux vidéo qui en sont tirés. Alors, ils nous disent tous, hein, dans les entretiens, et ça, c'est quelque chose qui va se distinguer des filles. En gros, si vous voulez, quand vous êtes un garçon au collège, il faut forcément passer par la lecture de cette forme de masculinité très stéréotypée. Les filles, ça ne va pas être ça. Mais après, quand ils grandissent, ils changent. Mais tous les garçons commencent par lire des shonen, et aucun garçon n'a honte, entre guillemets, d'avoir lu des shonen. Vous voyez, il y a une valorisation et une revendication de ce passage par le stéréotype masculin. Alors, par exemple, là, Full Metal Alchemist, il y a donc Kevin, non, c'est pas Kevin, c'est Samuel, qui a 15 ans, qui est en seconde, son père est sapeur-pompier et sa mère auxiliaire de puériculture, dit qu'il préfère les scènes de combat et les scènes d'humour. Les scènes où il parle beaucoup, c'est un peu énervant. Et il a arrêté de lire Full Metal Alchemist au tome 6 parce qu'il y avait trop d'explications. Et de la même façon, il apprécie le personnage principal du manga Bleach, donc qui s'appelle Ichigo, et il dit, quand quelqu'un essaye de lui parler longtemps, il coupe, puis il dit un truc court, et puis après il va se battre. Donc ça, vous voyez, c'est la règle pour un garçon. Et Kevin, pareil, 13 ans, peut-être tu vas reconnaître les entretiens que tu as fait, je ne sais plus ce que tu avais fait. Kevin, qui a 13 ans, tu pourras compléter comme ça, qui était en quatrième, qui est le père conducteur d'engin et la mère secrétaire comptable. Enfin, on a changé tous les prénoms, carrément. Donc apprécie le manga Helsing et il dit les combats, parce qu'il y a des combats et des grosses armes, et pour un autre il dit parce qu'il y a de la bagarre. Alors si ce qui est intéressant, c'est que pour les plus jeunes, donc quel que soit le milieu social, on va avoir l'action, le combat qui sont mis en avant. Quand ils vont vieillir, on va avoir deux orientations différentes. Donc on a des lycéens plus âgés, plutôt de milieux plus populaires, qui, eux, vont afficher un goût pour des mangas extrêmement violents, qui vont relever plus de la catégorie seinen, qui est en fait la catégorie pour adultes. Alors, par exemple, hein, Laji, 18 ans, il est en terminale pro, son père est électricien et sa mère au foyer. Et donc, il vous parle d'un manga. C'est un manga, on ouvre la première page, déjà, c'est un mec qui se fait découper la tête. À ça, c'était un pote, il m'avait dit, « Ouais, j'ai vu un manga, il est abusé. C'est des gamins qui arrachent les cœurs, patati, patata. » J'y fais, « Attends, fais voir. » J'ai regardé, j'ai bien aimé. J'ai lu 6 tomes d'affilée. C'est que du découpage intensif, dans tout le manga. Les gens, ils viennent. Ouais, bonjour, ils se découpent. Ouais, bonjour à un autre, ils se découpent. Pendant 2 pages, le mec, il reste chez lui, il s'entraîne, il fait des pompes, des tractions avec un seul doigt. Et puis après, il sort dehors. Il est où celui qui m'a découpé? Je vais le découper. Et voilà. Alors de la même façon, il a un autre copain et ils ont fait l'entretien à deux, donc vous verrez, à un moment, c'est intéressant. Donc Moussa, qui a 18 ans, qui dit « Baki, j'ai bien aimé, c'était assez violent ». Alors c'est Olivier qui a fait l'entretien, je vous le précise pour la phrase finale. « Baki, j'ai bien aimé, c'était assez violent, Baki. Il est tout nouveau ce manga, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît. En fait, c'est un enfant qui est le fils du plus grand champion d'arts martiaux du monde. En fait, son père, c'est un démon, il va essayer de le battre. C'est vraiment hyper violent les combats. Voilà, je vous le conseille. » Vous voyez, là c'est, je pense que c'est aussi parce que c'est Olivier en face de lui qui a cette... Donc on voit en fait qu'on a vraiment ce goût pour la baston qui est partagé par tous les garçons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont naturaliser cet intérêt pour le combat par le fait qu'ils sont des garçons. Et le fait que les filles n'aimeraient pas en fait ce genre de livre par le fait qu'elles soient des filles. Alors par exemple... Kader, 18 ans, seconde, père peintre industriel et mère au foyer. Ken le survivant, ah je le connais, je l'ai lu, c'est trop bien. J'aime bien, il y a de la baston, tu sais, je suis un garçon quoi. De la même façon, le Pierre qui a 17 ans, première STI, père facteur, mère institutrice à la retraite. Donc vous voyez, ça traverse quand même les milieux sociaux. Hein. Pour les filles, c'est beaucoup d'amour, un peu d'action. Les mangas pour garçons, c'est beaucoup d'action, un peu d'amour. Et pareil, Félix, 15 ans, première S, parent sculpteur. Alors, on lui demande un shonen, c'est quoi ? Ben, c'est pour les garçons, c'est axé combat, c'est des combats, il n'y a pas trop de réflexion. On va dire, premier exemple, c'est Dragon Ball, ils font que se taper dessus. Pour les filles, c'est donc plus, ça va être plus d'histoire sentimentale. Et en fait, c'est quelque chose qui se retrouve décliné dans tout, quasiment tous les entretiens. Pourquoi t'aimes ça ? Parce que je suis un garçon. Et qu'un garçon, il aime le combat et une fille, elle doit aimer le cœur, enfin, les sentiments. Alors, si en fait, pour être un garçon, il faut aimer les shonen. On retrouve un peu ce que disait Bourdieu, c'est-à-dire que, alors Bourdieu parlait pas beaucoup de genre, mais il parlait des goûts selon les classes sociales, et il disait en fait, on se détermine autant, la distinction, c'est autant se déterminer par les goûts qu'on a que par les dégoûts des autres. Et là, on a exactement ça, c'est-à-dire que si vous êtes un garçon, il faut adorer le shonen et il faut détester le shoujo. C'est-à-dire qu'on se définit comme garçon aussi en n'aimant surtout pas ce que disent les filles. Alors par exemple, hein, dans la grille d'entretien, on avait toute une liste de titres et il devait dire je les connais pas, je les lis. Et donc ce qui était amusant, c'était les réactions des garçons quand on osait supposer qu'ils auraient lu en fait un manga de filles. Alors par exemple, ils nous disaient souvent non, ça c'est pour filles. Alors par exemple, le grand frère de Félix, Octave, qui a 17 ans, qui est en terminale L, je ne vois pas un garçon faire oh, c'est trop triste. Si j'en vois un qui commence à faire ça, ah oui, c'est sûr, je me moquerai de lui. Et Hassine, qui a 15 ans, il l'a appris à ses dépens parce qu'Hassine, il avait adoré une série qui s'appelle Fruit Basket. Et donc, il arrive dans la cour de récré en disant « J'ai trouvé une super série, c'est Fruit Basket ». Et en fait, donc, il avait lu tout seul les 5 premiers tomes. Et dans la cour de récré, on lui a dit « C'est un truc de femme ». Voilà, donc ça a été fini. Et Hassine se moque à son tour des garçons qui lisent Nana et il dit « C'est vraiment trop nul ». Et à un moment, il parle d'une fille et dit « Ah ouais, mais elle, on lui dit rien à elle parce que c'est une fille, mais si ça aurait été un garçon ?» Donc vous voyez, vraiment quelque chose qui est extrêmement tranché. Et quand je disais tout à l'heure, Moussa qui avait fait l'entretien, ils avaient fait l'entretien à deux avec Nabil, et donc c'était intéressant parce que Moussa, du coup, dans l'entretien, dit des choses que Nabil ne savait pas. Et notamment, il dit que quand il était petit, il regardait Sailor Moon. Et là, Nabil lui dit, donc ils ont 18 ans, « Non, arrête, Sailor Moon, c'était nul à chier, arrête, c'était mes sœurs qui regardaient ça. » Et Moussa, à un moment, dit, aussi à propos de Dragon Ball Z, il dit, « En fait, je me suis toujours questionnée. Dans Dragon Ball Z, Bulma et Vegeta, je me demandais s'ils s'aimaient, enfin, des fois. » Et Nabil, il lui dit, « T'es sérieux ?» Donc, vous voyez, voilà, il y a vraiment dans le jeu aussi de masculinité. Et bon, là, je ne rentre pas dans les détails, mais Moussa, il peut se permettre de dire ça parce qu'il a beaucoup plus de capitaux. Ses parents sont médecins, il est bon à l'école. Donc, finalement, on peut se dire, il peut se permettre de déroger un peu par rapport à cette masculinité hégémonique parce qu'il a d'autres choses à côté, alors que Nabil, non, en fait. Donc, voilà, donc ça, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment très, très tranché. Ce qui est intéressant, c'est que certains garçons, néanmoins, avouent parfois lire des shoujo. Mais déjà, ce qui est manifeste dans les entretiens, c'est tout l'enrobage pour en fait excuser cette pratique. Alors par exemple, c'est déjà le dire en riant, donc ce qui signale l'incongruité d'une telle lecture. Ou bien c'est une démarcation par l'approvisionnement, ne pas l'acheter, mais l'emprunter à la sœur, la cousine ou la copine. Donc par exemple, Félix, il achète les shonen, mais il emprunte les shoujo. Octave, de la même façon, il lit des shoujo, mais il dit « Ah non, j'irai pas acheter un truc de fille ». Ou bien c'est de dire en fait que c'est pas vraiment un shoujo, que finalement ça a été classé comme shoujo, mais un peu par erreur, parce que la relation sentimentale passe après l'action, l'humour ou le fantastique. Alors par exemple, hein, Nathaniel, il dit « Au début, j'étais assez cadré sur les préjugés. Lovina, c'est une série pour filles. Il y avait un copain qui aimait bien ça, je lui fais « Ah, c'est une série pour filles ». Il me fait « Et alors ?» Après, je me suis dit « Bon, bah, tant qu'à faire, autant essayer ». Et j'ai adoré. Et donc, c'est Olivier, je pense, qui dit « Et tu trouves que c'était vraiment une série pour filles ?»« Ah non, non, pas trop. C'est une série, bon, disons pour filles, parce qu'il y a un peu d'amour, mais il y a de l'action. » Donc, en fait, c'est un peu un compromis entre shoujo et shonen. Donc, c'est intéressant. Alors, je vais me dépêcher un petit peu, parce que... ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont vieillir, je vous disais, les garçons de milieu populaire, ils vont aller vers des mangas où on a beaucoup de violence très forte. Les ados de milieu plus favorisés, eux, ils vont se distinguer de ce socle commun qui était la masculinité hégémonique pour aller en fait vers des mangas où on a beaucoup plus d'intelligence, enfin où le personnage est plus caractérisé par l'intelligence et par la sensibilité. Et là, ça m'a rappelé en fait ce que dit Venceslas Lisé quand il parle des rôlistes, des jeux de rôle. Et en fait, il montre, Venceslas Lisé, qu'en fait souvent les joueurs de jeux de rôle, ils sont issus de classes moyennes et voilà ce qu'il dit. La valorisation de la force physique et plus généralement des ressources corporelles n'a pas cours au sein de ces groupes. Au système de relations reposant sur les valeurs de virilité traditionnelle, caractéristiques des formes de sociabilité juvénile populaire ou des pratiques sportives, ils opposent un principe de classement essentiellement fondé sur des dispositions mentales et sur la mobilisation de ressources culturelles. Stratagèmes, subterfuges, gestion de l'information, conspiration, jeu d'influence, manipulation, autant de moyens stratégiques de parvenir à ses fins qui s'inscrivent dans un mode de domination non plus fondé sur la force physique ou ses dérivés, mais sur des ressources intellectuelles. Et ça, on le retrouve très très fort avec le titre phare des lycéens de milieu favorisé qui est Death Note. Alors Death Note, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un personnage qui, déjà physiquement, et ça ils le disent, physiquement il est complètement dégingandé, c'est absolument pas les gros muscles, et il y en a un qui dit « il a un corps de celui qui reste toujours derrière l'ordinateur ». Donc eux en fait, hein, concrètement. Et Death Note, en fait, l'histoire de Death Note, c'est il y a un cahier qui tombe, et en fait, le personnage se rend compte que quand il écrit un nom dans le cahier, il écrit un nom d'un bandit qui échappe à la police, et le bandit meurt. Et donc, ce personnage-là va se faire poursuivre par un inspecteur qui lui ressemble d'ailleurs physiquement. Et il y en a un qui nous dit « Oui, c'est tout un truc d'échec ». Et à un moment, il parle d'une scène dans un des tomes où il joue au tennis. Et il dit « Finalement, ça dure 10 pages et ils n'arrivent jamais à lancer la balle parce qu'il dit « Oui, si je tire à gauche, l'autre va savoir que je tire à gauche, donc il va aller un ». Et il dit « Voilà, c'est comme les stratégies de jeu d'échecs ». Et ça, donc, vous le voyez avec, par exemple, Mathieu qui dit « Death Note, ce que j'aime, c'est l'intelligence de ce type. Il est fou, mais il a une intelligence incroyable. Et le fait à chaque fois de se demander « Mais qu'est-ce qu'il va encore inventer ?»« Mais qu'est-ce qu'il va encore inventer ?» C'est super. Et Olivier, enfin, je ne sais plus qui avait fait entre eux. Et quel est ton personnage préféré? C'est dans Death Note, le personnage principal, sans hésiter. Et voilà, juste pour son intelligence. Donc là, vous voyez, Mathieu, il a des parents architectes, il a 17 ans. Voilà, quand on grandit, autant il y a un socle de masculinité commune. Et quand on grandit, là, on voit la masculinité qui va se distinguer selon l'origine sociale. Bon, alors, je passe sur la sensibilité. Pour en arriver, en fait, aux filles, en 4 minutes... Alors les filles, en fait, ce qui est intéressant, enfin, du coup, ça va être plus rapide parce que ça se met en rapport, enfin, en contraste avec ce que j'ai dit des garçons. Pour les garçons, je l'ai dit, vous avez tous, enfin, tous les garçons ont ce socle, cette idée de « il faut passer par une masculinité hégémonique et après, on peut s'en distinguer, mais si on a donné des garanties qu'on était passé par là ». C'est-à-dire qu'après, même que vous êtes de mieux favorisé, vous pouvez aller vers des mangas où c'est de l'intelligence, où c'est de la sensibilité, mais il faut avoir lu ça au collège. Les filles, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les filles, en fait, les shoujo, ça va être une lecture de filles de milieu populaire contre lesquelles vont se construire les filles de milieu favorisé. Donc, vous voyez, on n'a pas le socle commun, en fait, qu'on avait, en fait, pour les garçons. Alors, donc, chez les filles de milieu populaire, aucun problème pour dire qu'on lit des shoujo. En revanche, afficher des goûts de filles est extrêmement stigmatisant pour des filles de milieu favorisé. Et de même qu'elles vont afficher une passion en musique pour le rock, le hard, le métal, contre le R&B et les chanteuses populaires, dont elles disent qu'elles sont trop sexy et trop féminines, elles vont clamer le mépris des shoujo et le goût pour les shonen, pour la baston, pour la violence. Alors par exemple, Célia, qui a 17 ans, qui est en première, qui a, le père est chorégraphe et la mère directrice d'opéra, aime les mangas violents du type Jackals, elle aime la musique gothique, elle aime le groupe Rammstein et les films d'horreur, et elle exprime son goût pour les combats et son désintérêt pour les mangas d'amour, et là je cite, « ces trucs avec des filles à grosse poitrine qui franchement doivent causer des problèmes de dos absolument immondes ». Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule, hein, et on voit bien comment la critique du personnage féminin va se confondre avec la critique de la lectrice supposée à laquelle on ne veut absolument pas être identifiée. Alors, par exemple, Cécile, qui est en première année d'ostéopathie, son père est cadre et sa mère infirmière libérale. Alors, il y a ceux qui sont avec des gros yeux, des petits nez, des petites bouches, et c'est moche. Et les histoires qui vont avec sont généralement très, très niaises. C'est du genre, je t'aime, mais tu ne le sais pas parce qu'en fait, je suis invisible. Et c'est un peu chiant. Disons qu'en fait, quand elles, donc là, elles parlent de ses copines, quand elles lisent leur manga à elles, c'est mignon tout plein, mais franchement, qu'est-ce que c'est niais. Et de la même façon, une autre, Estelle, donc là, c'est intéressant ce qu'elle dit, donc elle est en terminale S, père employé de banque, mère infirmière scolaire. Chocolat et vanilla, j'ai pas du tout aimé. Alors on lui dit, c'est parce que c'est pour les enfants? Ah non, non, c'est pas spécialement, je dirais que c'est pour les filles. Voilà. Donc elle s'appelle Estelle quand même. Et donc là, on retrouve, il me semble, vraiment ce que Françoise Héritier a montré, un fossant anthropologique, quand elle parle de valence différentielle des sexes. C'est-à-dire que même quand vous êtes une fille, eh ben, il faut, quand vous êtes une fille, de mieux favoriser, pour pas déroger... Enfin, voilà, c'est stigmatisé si vous avez des goûts de fille. Et donc, quand vous êtes une fille, il faut aller se fondre dans le stéréotype du masculin, mais pas dans le stéréotype du féminin. Et là, on voit bien, vous voyez, le cercle vicieux de ce qui se passe. Et je vais juste m'arrêter sur le dernier point, en fait, qui est comment elles vont contourner le stigmate, avec un point qui est quand même extrêmement important et qui va dire beaucoup aussi de ce qui se passe dans les cours de récréation de collège et les violences, notamment liées à l'homophobie. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est quand même assez important d'en parler. C'est ce qui va se passer autour du yaoi. Alors, le yaoi, c'est un genre très particulier qui est un genre... ce sont des mangas écrits par des femmes, mais qui mettent en scène, en fait, des relations homosexuelles entre hommes. Alors, ça, c'est le genre ultime tabou de tous les garçons qu'on a interrogés. C'est-à-dire que même les garçons qui disaient... Moi, je lis du shoujo parce que il y a des garçons, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais leur excuse pour lire du shoujo, c'est de dire moi, je suis un expert. Voilà, moi, je suis la référence en termes de manga. Je suis un expert, je connais tout. Donc, ils vont lire du hentai ou là, c'est du porno. Ils vont lire du shoujo et quand dans la liste on arrive au yaoi, ils disent ah non, ça c'est pas possible. Alors certains en ont lu parce que ne serait-ce que la façon dont ils nous en parlent pour dire qu'ils peuvent pas en lire, on voit qu'ils en ont lu. Mais en tout cas, il ne faut absolument pas dire... voilà, par exemple, Pierre, alors il dit non. L'ami d'une amie à moi lit des mangas pour gays. Bon, déjà, le yaoi, ce n'est pas un manga pour gays. Hein, c'est un manga qui met en scène des relations entre hommes, mais voilà. Voilà, ça, c'est le style de manga que je ne lis pas. Et c'est quoi comme histoire? Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché à savoir. Je n'ai jamais ouvert, je n'ai même pas ouvert. Vous allez voir la suite. Pourquoi? Parce que ça ne me plaît pas. Comment tu sais que ça ne te plaît pas si tu ne les as pas lus? Là, je pense qu'il a envie d'étrangler. Parce que je suis tombée une fois dessus, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a vraiment pas plu. C'était vraiment... Mais pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais parce que c'est quoi? C'est l'histoire, les dessins? Sociologue qui lâche pas. Non, non, c'est l'histoire. Il enchaîne. C'est un gars qui se retrouvait dans un lycée pour garçons. Il rencontrait un gars, et puis là, sa voix, elle baisse. Et après, je ne sais plus. Enfin, après, j'ai pas lu, mais il était pas amoureux encore. Mais bon, en tout cas, ça m'a pas plu dès le départ. Voilà.
On peut peut-être expliciter parce que, bon, là, petite parenthèse, c'est mon frère en fait, c'est moi qui faisais l'enquête. Voilà. Donc, oui, je cherchais à savoir parce que je ne connaissais pas ce genre de manga, mais voilà. Et c'était un petit peu gênant, comme en fait, après, quand je suis, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas développer. Mais bon, voilà.
Voilà. Tiens, j'avais en fait, on a tellement changé les prénoms, etc. que. Mais bon, donc voilà. Pierre, on l'avait appelé Pierre.
Non, non, mais c'est ça. Non.
Alors. En revanche, donc même ceux qui sont experts, qui parlent, parce que dans le reste de l'entretien, il était très bizarre, en fait. Là, non, pas du tout. En revanche, pour les filles, ce qui est intéressant, c'est que le yaoi, ça va être le moyen pour ces filles. En fait, qui dans les entretiens nous dit qui lit du yaoi, ce sont les filles de milieux favorisés. Et là, il y a peut-être, justement, finalement, pour elles, une façon de récupérer les intrigues sentimentales auxquelles elles n'ont pas droit, en fait, dans le shoujo. Puisque le shoujo, c'est tellement stigmatisé et stigmatisant d'en lire, est-ce que c'est pas dans le yaoi, en fait, que finalement, elles vont chercher une... parce que bon, quand vous regardez le yaoi, bon, il y a toute une gamme, hein, et c'est souvent des corps qui sont... Enfin, je sais pas si vous... Enfin, vous êtes pas de cette génération-là, mais moi, quand j'étais petite, je regardais Albator, et c'était des... Ce sont des corps extrêmement androgynes, finalement. Albator, ça, c'est un homme, ça peut être une femme, il n'y a pas de... Et dans les yaoi, il y a beaucoup cette esthétique-là aussi, où vous avez des corps, mais bah, c'est un garçon, c'est une femme, bon, il n'y a pas de... Voilà. Donc, je vais... Bon, j'ai passé plein de trucs, hein, notamment sur les socialisations. Enfin, je vais peut-être juste en parler en conclusion, juste que, pour que vous ayez ça en tête. Mais là, forcément, dans le temps, j'ai été assez caricaturale en disant garçon de milieu favorisé, fille de milieu défavorisé, etc. C'est encore bien plus complexe que ça. Et là, je vais juste le dire en conclusion. Mais par exemple, vous avez dans les... Et ça, c'est intéressant aussi encore pour la valence différentielle des sexes. Vous avez des filles de milieu populaire... qui vont détester les shoujo. Alors que, vous voyez, la plupart des filles de milieu populaire, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été socialisées avec des garçons. C'est par exemple des filles qui n'ont que des grands frères. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, quand vous avez une fille de milieu populaire qui a appris à lire les mangas, enfin, qui a une carrière de manga où il y a des garçons, donc où le père, alors le père, c'est rare parce qu'il y a vraiment un truc de génération, mais un grand frère, des cousins, etc., elles vont rejeter les shoujo pour aller vers les shonen. Mais il y a plein, dans le corpus, on avait plein de garçons avec des grandes sœurs. Il n'y a pas un garçon avec des grandes sœurs qui, lui, va aller lire des shoujo, ou va en tout cas revendiquer de lire des shoujo. Donc là, on voit bien aussi comment la socialisation, elle peut venir nuancer, affiner, enfin, vous voyez, ne sortir un peu des cadres hyper déterministes qu'on reproche parfois aux analyses sociologiques. C'est toujours bien plus complexe que ce qu'on voudrait mettre en équation, mais on voit bien aussi que c'est pas en sens inverse. Vous voyez, la conversion n'est pas équivalente d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser la place aux questions. Voilà. En fait, c'est tous dans la même diagonale. Alors.
On va faire de Elsa et on va revenir jusque devant. Vas-y.
Ah oui, je voulais savoir comment ça se passe en fait en dehors des catégories éditoriales du shoujo et du shonen. Par exemple, qui lit des mangas comme Gun, Evangelion, Météo, qui sont pas catégorisés du shonen, du shoujo?
Ben ça, c'est plutôt justement les garçons de milieu favorisé qui ou les donc les garçons de milieu favorisé. Evangelion, par exemple, c'est alors bon, après j'ai laissé tomber plein de choses, mais ceux qui disent voilà, il faut de l'intelligence, il faut de la sensibilité. Et Evangelion, ça va être aussi beaucoup ceux qui se situent comme experts. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont des classiques qui pour nous étaient ce qui était interdit en fait. Enfin, pour nous, de ma génération, en fait, mais les tout premiers deviennent leur classique. Dragon Ball Z, ça devient le classique, en fait. Regardez, par exemple, Albator, ça devient le classique. Alors que quand on replace dans l'époque, c'était pas... donc, c'est intéressant sur les évolutions de légitimité. Et Evangelion, c'était aussi... le jeune homme qui en parlait, lui, il retrouvait... Il y a aussi beaucoup de choses, bon, là, dont j'ai absolument pas parlé parce que c'est pas le sujet, mais... Moi, ce qui m'intéresse aussi en tant que sociologue de la lecture, c'est de montrer aussi que sur des corpus qui peuvent passer dans un classement littéraire ou dans une visée, voilà, on dirait les mangas, Dragon Ball Z, etc. On dirait mais c'est de la paralittérature, de la sous-littérature, des mauvais genres en fait. Et il s'y passe les mêmes choses que, par exemple, je pense il y a un essai qui est magnifique, qui est celui de Marielle Massé, où elle raconte ce que c'est que lire, en fait. Je ne sais plus comment c'est, façon de lire, façon d'être. Et elle raconte comment... et alors, c'est intéressant, parce que ce livre-là, dans les études littéraires, il est sorti il y a 4-5 ans, il a fait un buzz, aussi dans les médias, parce que c'était... voilà, les littéraires reconnaissent que la lecture, ça sert aussi à grandir et à s'enrichir. Et donc, dans son livre, elle montre que quand on lit Proust, ça peut... ça peut, on peut s'identifier, mais elle ne parle que de Barthes lisant Proust, Barthes lisant Balzac, etc. Et ce qui m'intéressait, c'est de, dans ce séminaire-là qu'on fait, c'était de montrer aussi que y a les mêmes choses qui se passent sur des mangas. Enfin, vous voyez, la richesse des appropriations et de ce qu'on en tire, c'est pas lié au classement dans une hiérarchie des genres. Et tout ça pour revenir à Evangelion, c'est que Evangelion, c'est, je sais pas si on dit Evangelion ou Evangelion, mais c'est un des mangas qui suscite le plus aussi d'appropriation comme ça. Et notamment par ce jeune homme là qui a, alors je sais plus, enfin il y en a un qui a perdu sa mère et l'autre le père l'a abandonné. Et voilà, il y a une sorte de réparation de soi qui passe par ce manga là en fait. Et là, sur les réparations en termes de lecture, il y a les travaux de Michèle Petit, en fait, qui est une anthropologue de la lecture. Et elle parle. Alors, elle a tout un. Elle se puise beaucoup dans la psychanalyse, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Comment en lisant, on se répare, on se construit, on colmate des brèches.
Alexandra ?
Oui, alors en fait, moi, j'avais des questions sur le déroulement des entretiens. Est-ce que c'était toujours des entretiens où ils étaient deux par deux, où il y avait des face à face? Et est-ce que ça change quelque chose, par exemple, quand il y a deux garçons ensemble, ou quand il y a un garçon tout seul avec l'enquêteur? Et aussi, sur les garçons plutôt jeunes, donc plutôt attirés par des mangas shonen, est-ce qu'ils vont parler d'autre chose que de la baston, est-ce qu'ils vont justement dire apprécier autre chose que la baston et avoir des lectures à plusieurs niveaux?
Ouais. Alors pour la première question, en fait, non. Hein. Normalement, puis là, cette année, le séminaire qu'on fait, il y a aussi des entretiens. La règle, en fait, en gros, c'est normalement de faire un entretien avec la personne en face à face. Et puis après, il y a le lieu, de ne pas le faire à l'école, mais de le faire chez la personne, parce que voilà, il y a toutes ces conditions de l'entretien qui sont extrêmement importantes. Après, nous, ce qui se passe dans le séminaire, c'est que, bon, là, par exemple, on fait des entretiens avec des enfants. Quand la mère, elle veut pas partir, on va pas dire, on s'en va. Le tout, c'est de, quand on fait le, voilà, à chaque fois que je vous ai parlé de Moussa Nabi, je vous ai dit, ils ont fait l'entretien à deux. C'est d'avoir toujours les conditions de l'entretien, non seulement en tête, mais voilà, ça fait partie de l'analyse. Et après, bien évidemment, que ça donne pas les mêmes choses, mais là, par exemple, moi, je suis vraiment de la politique de dire faut faire feu de tout bois. Donc, il y a toujours quelque chose à sortir. Et là, quand Nabil, la réaction que Nabil a par rapport à Moussa, on l'aurait pas eu.
Dans quelle mesure ça change le besoin de s'identifier à une masculinité hégémonique?
C'est ça, voilà. Donc ça, il faut toujours mais en même temps, un entretien, c'est jamais neutre non plus, même quand vous êtes face à face. Là, par exemple, les entretiens, quand ils étaient faits avec Olivier, ou quand ils étaient faits avec Lucie, ou quand ils étaient faits avec moi, ou avec un autre, selon l'âge de la personne, le sexe de la personne, voilà, il faut avoir tout ça. Et puis, il y a un article de Gérard Moget dans Genèse où il explique que souvent, on a... Je le trouve vraiment bien cet article parce qu'il dit souvent en sociaux on a l'impression que voilà tout ça c'est des biais et puis en fait ça empêche d'avoir il dit c'est comme un oignon puis on a l'impression que au contraire on a l'impression que l'individu ça serait comme un abricot et puis il y aurait plein de trucs et il faut avoir le noyau qui est sa vérité vraie puis il dit en fait non c'est qu'un oignon vous enlevez les trucs et il y a plus rien c'est-à-dire qu'il y a pas de vérité vraie de l'individu ne serait-ce que parce que l'individu il se pose pas les questions qu'on lui pose. Voilà, on lui a posé des questions, il répond. La socio, c'est aussi ça, c'est aussi la connaissance de ce qu'on fait, des conditions de nos outils, quoi.
Parce qu'au début, c'est la question que je voulais te poser, mais j'ai auto-répondu qu'effectivement, parce que je suis début peut-être en socio, mais qu'effectivement, ça fausse peut-être que de demander à un garçon, alors est-ce que tu regardes des trucs pour filles, il va dire non, mais c'est tellement. Ça se voit qu'il dit non et qu'en fait oui, que du coup ça, dans l'enquête ça marche aussi. Enfin,
sauf qu'on disait pas est-ce que tu regardes des trucs
pour
filles.
Donc
après c'est pour ça que justement toutes les questions on fait.
Que tu lis du shoujo, ils se rendent bien compte que.
Alors on disait même pas. En fait on disait même pas comme ça. En fait on avait une liste de titres et où on avait tout mélangé. Et parce qu'il y en a certains, Shoujo Shonen, ils savent pas ce que c'est. Hein. Donc c'est eux qui disent, ah non, ça c'est un truc de fille. Mais nous, on avait la liste de titres, tout était mélangé. Et puis certains disaient, ah non, ça je connais pas. Puis après, c'était, mais ça c'est ma soeur qui le lit. Enfin, c'était, voilà. Ouais. Donc, mais effectivement, tout. Alors après, par exemple, là on fait une enquête sur genre et science. On essaye de faire justement, il y en a dans la salle qui participent. On essaye de faire comme ça. Puis de temps en temps, on peut mettre une question. Alors par exemple, est-ce que pour toi la science est pour les garçons ou pour les filles? Mais on la met à la fin. Ouais. Et c'est vraiment pour. On avait fait une enquête sur le Seigneur des Anneaux aussi. On disait, est-ce que pour toi c'est pour les garçons ou pour les filles? Mais on le met à la fin. Et après, on interprète les réponses en sachant quelles questions on a posées en fait.
Mais du coup, la question que je vais poser du coup, est-ce qu'il y en avait deux, parce qu'on a vu qu'il y avait des yaoi,
c'est les mangas écrits par des femmes.
Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs lesbiens et du coup, qui est le public? Première question. Est-ce que c'est écrit par des hommes aussi ou est-ce que c'est des femmes aussi qui écrivent des trucs?
Ouais, alors, en tout cas, alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste du manga et pas du tout une experte. Dans les entretiens, non.
Ouais.
Alors après, peut-être que ça existe et si. Sans doute, mais dans les entretiens, ça n'est jamais apparu.
Ouais, voilà. Est-ce que. Il y a des cas, comme on parle de réciprocité, où carrément des shonen ou des shoujo ont changé de ligne éditoriale parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça plaisait plus.
Ouais, ben Fruit Basket, par exemple, il a changé. C'est-à-dire qu'il était shoujo et il est passé shonen.
Ouais, d'accord. Ça peut arriver.
Ouais.
Isabelle, tu voulais réagir sur la question?
Je veux juste dire que l'équivalent lesbien du yaoi, ça existe, c'est un nom, mais c'est un truc, enfin, en tout cas, à mon époque, ça existait assez peu en France, donc c'est pour ça qu'on n'est pas, on ne sait pas trop, parce que ça ne s'est pas vendu autant, le yaoi a reçu une vraie réception
populaire,
c'était populaire par un public féminin qui avait bien le temps de ça, mais l'équivalent masculin est déjà tellement visible sur Internet, sur les chaînes porno, des scènes lesbiennes, il y en a partout, quoi. C'est un topos du regard masculin, donc c'est pas difficile à trouver, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été développé en manga. Mais ça existe.
Ouais. Il y avait une question par la fois.
Mais alors, pourquoi faire des entretiens et pas des questionnaires imprimés?
Ah bah, parce que si vous faites un questionnaire, ils vont dire oui, enfin... l'entretien, bon, là je donnais juste des petits morceaux, mais l'entretien, ça dure. Alors, avec des tout petits, c'est pas la même chose, mais là, ça a duré 2 heures, ça a duré 3 heures, ça a duré 4 heures. Et donc, ça, un questionnaire, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas développer. Donc, vous ne pouvez pas non plus revenir sur ce que vous avez dit. Et le questionnaire, c'est. Ça suppose pour le coup qu'on a une idée précise, fixe, déterminée. Vous voyez, là, ce qu'on cherchait. Un questionnaire, alors en socio, on fait aussi des enquêtes par questionnaire, mais qui vont être plus des enquêtes. Bon, par exemple, on a fait une enquête pour le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles. Là, c'est savoir bon, combien de temps tu lis par jour. Et encore, là, on pourrait dire, ils répondent. Et là, on met un classement de 0 à une demi-heure. Combien de livres as-tu acheté le mois dernier? Bon, là, on peut. Et encore, vous voyez, même combien de livres as-tu acheté le mois dernier? C'est une question qui est facile pour ceux qui n'achètent pas de livres. Dès qu'on en achète, on voit combien il n'y a rien d'objectif. Il y a une enquête qui était par questionnaire, qui était faite par l'INSEE, qui était sur le poids et la taille, en fait. Donc, le truc, on peut se dire, là, il suffit de mettre un chiffre, etc. Et puis, celle qui a fait l'article, donc, elle compare une enquête il y a 20 ans et une enquête... l'article commence à être un peu âgé, mais en gros, il y avait 20 ans entre les deux enquêtes. Et puis, elle dit, le titre de l'article, c'est « Le corps change son image aussi ». Puis elle montre qu'en fait, quand on compare les chiffres donnés, donc les questions c'était combien mesurez-vous, combien pesez-vous, en fait, les gens ont grandi et les gens se sont amincis. Et elle dit deux explications. Soit on prend les chiffres vraiment au pied de la lettre et on se dit changement d'alimentation, pratique sportive, etc., ce qui est vrai. Puis elle dit ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que en 20 ans, l'image du corps aussi a changé. Et là, même si ce sont des chiffres, il ne faut jamais oublier que ce n'est que de la déclaration. C'est-à-dire que le sociologue, il n'a pas été mesuré ni pesé la personne. Donc, elles disent qu'on mesure aussi dans cet agrandissement et amincissement des silhouettes, c'est tout autant l'évolution du mode de vie, enfin l'évolution peut-être concrète des silhouettes, mais que l'évolution des représentations de ce qu'on doit répondre. Donc, vous voyez, le questionnaire, il ne faudrait pas non plus penser que le questionnaire, il est objectif par rapport à un entretien qui serait subjectif. Mais juste pour répondre sur le début de votre question, dans ce qu'on cherche chez nous, où c'est les nuances, la richesse des appropriations, on est obligé de passer par des entretiens.
D'accord. Alors là, c'est juste deux ajouts, petits commentaires. Vous avez signalé que toutes les interprétations sont possibles par rapport à une BD, et je voulais simplement rappeler quelque chose qui est assez emblématique. Armand Matlar, qui est un grand prof en communication, a montré que la série Juliette de Moncoeur, son opéra américain, qui était publié en France dans le journal Confidence pour femmes, je dirais, tendance ménagère au foyer, mmh. très nettement, avait dans les années 70 déclenché la colère du MLF, c'était brûlé sur place publique, etc. Et en même temps, en Argentine, c'était considéré comme une BD féministe qui aidait à la libération des femmes. Ouais. Parce que l'héroïne est mère de son petit village. Donc elle est très féminine, traditionnelle, mais elle a un métier masculin. Hein, donc on peut vraiment tout lire. Et la deuxième remarque, c'était sur la séparation dans les mangas entre ce côté masculin, garçon-fille, qui était très net dans les années 40-50, vous aviez cœur vaillant, âme vaillante, avec le titre montrait ce qui se passait. Dans les années 50, Marie-Jacques avait fait cocardie, avait fait ensuite mamzelle pour des filles de 16 ans, il y avait une séparation très nette. Les années 70 et 80 avaient essayé de faire disparaître. Hein. Le journal Tintin avait récupéré le personnage de Lynn, qui était dans un journal féminin, avait créé Aria ou Naomi, qui était pour filles, et ça avait tendance à disparaître. Et puis avec le manga, on est revenu sur une séparation tranchée très marquée. Et je finis, ça me rappelle dans des explications, dans, ça doit remonter à 70 à peu près, on expliquait la différence, les garçons lisent des BD, les filles et les femmes lisent du roman photo. Donc, traduction, c'était le garçon, la fille et cherche le réel, la photo, c'est le réel, bon, admettons. Le garçon, au contraire, cherche le dessin qui est l'invention, la création. Ça remonte à l'époque préhistorique, la femme est liée au réel parce qu'elle fait la nourriture dans le foyer et elle s'occupe du réel. L'homme part à la chasse, vous pensez la chasse, il doit penser ce qu'il va faire, donc il invente et donc il part dans la narration et le futur. Les années 70-80, on a emballé, enfin, on a tapé à bout de poulet rouge. Et puis finalement, la théorie de l'homme préhistorique, ça ressort dans les journaux, on n'en avait pas, les Américains la ressortent, mais c'est assez amusant de voir des choses sont revenues.
Je peux juste répondre. Bah, en fait, ce que vous dites, c'est vraiment passionnant. Et sur cette, ce retour de la théorie de l'homme préhistorique, des cavernes, etc., il y a un livre super qui est écrit par Irène Jonas. Et le livre, ça s'appelle « Moi, Tarzan, toi, Jane ». Et c'est « Retour de la réhabilitation ». Et elle, donc, elle parle de tout ce qui est neurosciences, neuropsychologie. Mais, enfin, on en parlait dans le séminaire, parce que c'est genre les sciences. Ça va jusqu'à des trucs où... Ben c'est les best-sellers de l'homme qui vient de Mars, c'est la femme de Vénus, oui, de l'homme qui ne s'est pas trouvé dans le beurre dans le frigo. Ben oui, mais en même temps, il ne le range pas dans le frigo, donc il ne sait pas où il est rangé. Mais voilà, et comment on explique ça dans le... et puis, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire aussi. Mais bon, j'étais d'accord avec tout ce que... C'était vraiment... Oui, si, quand même, sur juste la séparation, quand vous dites le retour, c'est pas que par les mangas, parce que par la presse, une fois j'étais allée à un colloque sur la presse pour jeunesse, et ils expliquaient que pendant, jusque fin des années 80, on était revenu sur une presse qui était neutre, entre guillemets, quoi. Et qu'à partir, et que le premier magazine à revenir à une presse très genrée, c'était Julie, et qu'à partir du début des années 90, on était revenu, vous allez aujourd'hui dans un magasin de journaux, enfin, effectivement, il y a toute une série de presse rose, violette, et moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas ça. Il y avait Castor Junior, il y avait, alors c'était autre chose, mais on n'avait pas, enfin, voilà, on a eu, c'est une génération où on n'avait pas cette presse très genrée. Maintenant, c'est revenu à la presse genrée. Et l'explication, c'est de dire que ce sont les filles qui lisent. Donc, marketing, eh ben, on va leur donner des trucs pour...
Je voulais juste réagir en tant qu'auteur de bande dessinée en disant que, à mon sens, la bande dessinée franco-belge est dans une situation extrêmement différente du manga en général, dans le sens où déjà, de toute façon, c'est lu par des gens plus âgés, c'est 30, 40, 50, etc. Et qu'au contraire, on voit en ce moment un lectorat féminin arriver massivement, qui n'existait pas il y a 10 ans.
Oui, très peu aujourd'hui. Oui.
Mais tout simplement parce que, justement, je pense que les contenus étaient extrêmement genrés.
Oui.
C'est-à-dire vraiment destinés, c'est-à-dire très stéréotypés. Et par exemple, en ce moment, on assiste vraiment en ce moment à l'essor de la bande dessinée en Allemagne, et les éditeurs disent que la majorité du lectorat est féminin.
Ah ouais.
Mais recherche ce qu'on appellerait du livre d'auteur en France, c'est-à-dire des livres à fort contenu sociologique sur des questions de société en général, et c'est ces livres-là qui se vendent et non pas les séries franco-belges telles qu'on a pu connaître auparavant.
Ouais.
Donc voilà, différent de tout.
Merci beaucoup. Merci.